Cabane, la brasserie Les Deux Frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini-festival hivernal Série Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre-y des groupes comme B-Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur Choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 127. 127, un chiffre quasi mystique. Si on s'appelle James Franco, l'épisode 127 de Pop en Stock. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez intéressant qui vient un peu s'inscrire dans cette tradition-là, Pop en Stock, de parler d'objets de la culture populaire qui sont souvent, non pas méconnus, mais assignés, disons, à un autre registre du fandom. Aujourd'hui, on parle d'une télésérie qui a été un sujet assez débattu. En fait, puisque, là, je me rappelle pas du airdate, mais je pense que c'est autour de Noël, on a vu la 8e saison de la télésérie à succès Gilmore Girls réapparaître sur les ondes de Netflix, et ça a un peu changé la donne de la télésérie. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on parlerait de Gilmore Girls aujourd'hui, parce que la télésérie à succès, on s'entend que de 2000 à 2007, on a un canon général, le canon le plus consensuel possible. Quelques interprétations disent que c'est les 5 premières saisons qui sont importantes, qu'à la 6e, les trucs se complexifient, et la 7e est totalement à oublier. Mais la 8e, c'est quelque chose qui devient très intéressant en étude de culture populaire, c'est que la 8e est en train de totalement défaire, fragmenter ou, si je peux dire, désagréger le vernis des 7 premières saisons, malgré qu'elles seront toujours intactes. Il commence à avoir, de la part du fandom, une volonté de dire « la 8, c'est autre chose parce que ça défait un travail, ça vient un peu trop dans le domaine de l'antithèse, de qu'est-ce qu'on trouvait qui était extraordinaire avec la télésérie Gilmore Girls. » Rapidement, pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers avec la télésérie, vous allez potentiellement vous emmerder pour la prochaine heure. Je m'excuse. Puis je vais pas vous dire d'aller écouter 7 saisons de 22 épisodes, parce que c'est à l'époque où la télévision était... c'était tenace. Il fallait s'atteler. C'était pas des 8 épisodes de 42 minutes. C'était la totale. Mais en même temps, je pense qu'il y a comme une petite introduction qui est nécessaire. Comme le titre l'indique, Gilmore Girls raconte les aventures de deux filles Gilmore. Donc, Lorelai et Rory, jouées à la fois par Lauren Graham et Alexis Bledel. On inclut aussi, je l'ai dit Alexis, mais
comme, Alexis,
parce que sinon tout le monde pense à Alex Martin, évidemment. Alex Martin avec des gros yeux bleus qui lui proustent, c'est super. Hein. Ouf! J'étais quand même un fan de la série, c'est ça qui est bizarre, vous allez m'entendre intervenir de façon un peu étrange. Mais le clan Gilmore est plus grand que ça. On inclut aussi les grands-parents Amélie et Richard. On inclut aussi tous, vous devinez, tous les hommes qui cognent à la porte des Gilmore et tous les amis qui viennent supporter les Gilmore dans toutes les pérégrinations et aventures. La télésérie, elle est créée par Amy Sherman Palladino, qui a fait une autre affaire qui s'appelle Bedhead ou... Ouais, exactement. On est un peu dans un comme « elle a réussi ça » et c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire pour rassembler un panel extraordinaire, parce que vous êtes vous avez déjà ri, là, on vous entend assez bien. Mais je ne suis pas tout seul en studio pour en parler, vous l'aurez déduit avec les rires. Je suis avec Elisabeth Simpson, qui est animatrice au Boudoir des Imparfaits et qui est animatrice aussi pour les Amazones, aux Amazones, avec les Amazones, durant les Amazones.
Des Amazones.
Des Amazones, ouais. Étudiante en philosophie, qui va peut-être tomber vers Descartes en plein milieu de l'émission, on sait pas.
Non, parlez-moi plus de Descartes, là, je suis plus capable.
T'as assez pensé, tu es assez.
Ah.
Ça va?
Oui, mais ça, c'est le syllogisme. Mais je veux plus en parler.
Je le savais qu'elle ferait, je savais. Elisabeth, tu vas nous parler du statut social à l'aide des classes et différences.
Le rapport à l'argent, beaucoup.
Toujours très intéressant. Stéphanie Roussel, poétesse, activiste, amie de l'émission. Quoi? Qu'est-ce que...
OK.
Ben, je cherchais des épithètes. J'étais comme...
Toute qu'une description. Ouais.
Une grande oratrice. Oui. J'ai eu la chance d'entendre des épisodes à Pop en Stock où Stéphanie était là. C'était très, 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 très inspirant.
Ouais, la barre est haute, là.
Non, t'es super bonne. Et je sais que je faisais des blagues il y a quelques émissions par rapport au fait que c'est toujours Hélène que les exclusivités sont les nouvelles invitées, puis ça me dérange. Fait que je me suis comme un peu vengé en ayant Maude Neveu-Villeneuve. Salut Maude!
Allô!
Maude qui est auteure, éditrice aux éditions de ta mère, professeure au cégep du Vieux Montréal.
Oui.
C'est comme ça que ça s'appelle.
C'est comme ça que ça s'appelle.
Et juste, encore, amie. Bonjour.
Allô.
C'est fou de faire la radio. Mais en fait, parce que j'ai d'abord avant tout le sujet de Gilmore Girls, sans dire que l'émission tenait sur tes épaules, je connais ton affection pour la télésérie. J'étais comme, bon, au moins, on a une personne vraiment solide qui tente de se faire la bibliothèque rêvée, si j'ai cru comprendre votre sous-sol.
Oui, en fait, pour ma fête de 30 ans, mon chum a demandé à tous les gens que je connaissais de m'envoyer des livres qui font partie de la liste de tous les livres que Rory Gilmore lit pendant la série. Mais évidemment, il ne me l'a pas dit. Fait que moi, je recevais plein de livres par la poste sans trop comprendre ce qui se passait. Ils étaient déposés sur mon balcon devant chez nous. Pis ça. Puis finalement, le jour de ma fête, j'ai reçu un coffret avec toute la liste, un petit crayon pour cocher, une étampe pour mettre dans chacun des livres bibliothèque de Rory Gilmore avec mon nom, puis tout le kit. Le plus beau cadeau de toute ma vie.
C'est Maxime.
Ouais. C'est vraiment cute.
C'est magnifique.
Tu vas venir nous parler de la trajectoire de Rory Gilmore, c'est vraiment adolescence à âge adulte.
Oui, ouais, et de l'impact du revival sur cette trajectoire-là.
C'est ça, parce que j'imagine que tu vas clarifier ça, mais à la fin du revival, à la fin du A Year in the Life, là, qui est la mini-série de 4 épisodes d'une heure et demie,
oui.
Rory a l'âge de Lorelai au début, c'est-tu ça?
Oui. Elle a 32 ans, comme Lorelai au début.
OK, c'est ça. OK, bon. Donc,
ou à peu près, là, parce
33,
que...
33, je pense, ou je sais pas.
En tout cas, ça reste dans le même ordre, là, ouais.
Ben, parce qu'on parlait en préparation de l'émission de la cyclicité qui existe dans la télésérie, mm-hmm. puis que je trouvais que c'était assez cohérent que ça se fasse mm-hmm. de cette manière-là. Mais je vais laisser la parole à Elisabeth. Parle-nous...
Comme la plupart...
Gilmore Marx.
Oui, Gilmore Marx. J'aurais pas les compétences pour vous parler de Marx à ce point-là. C'est pas mon intention de toute façon. Je pense que mon intention, c'était plus d'une espèce de questionnement, en fait, qui m'est venu lorsque je me suis dit « C'est fou à quel point il y a une dichotomie, je sais même pas si c'est le bon mot, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le discours, alors que on vante les filles Gilmore principales, si on compte pas, mettons, le troisième personnage qui serait Emily Gilmore, puis il y aurait même aussi le personnage de l'arrière-grand-mère qu'on a vu en partie la mère de Richard, donc qu'on a pu voir, qui serait comme la quatrième Gilmore, mais qu'on voit pas beaucoup. Ce qui était fascinant, c'est de voir que Lorelai et Rory pour les 15 premières années de la vie de Rory, ils ont vécu quand même dans une situation assez difficile. Ont vécu, on le sait, Rory et Lorelai ont vécu dans une à l'arrière de le Independence Inn, donc dans une espèce de remise qu'elle avait tout rénové. Là, ils ont réussi à pacter à mettre ensemble un petit baluchon pour être capable de déménager dans une maison. Et là, Rory, qui avait des aspirations pour aller éventuellement à Harvard et tout ça, va décider d'aller à Chilton. Et là, Lorelai, dans le premier épisode, va demander à Emily et Richard de l'argent pour pouvoir être capable de payer Chilton. Deuxième épisode?
Mais non, mais au début, elle s'en va à la banque pour demander un prêt. Elle veut pas tout de suite faire affaire avec sa mère.
Non, parce que c'est quand même l'orgueil.
Puis là, elle est pas solvable à la banque. Puis c'est pour ça qu'elle est obligée de demander un prêt à ses parents.
Mm-hmm. Puis elle est pas solvable pour une niaiserie en plus. Je pense que c'est vraiment une espèce de virgule administrative tout croche, là.
Ouais. Ça, je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps, là. Je sais pas pour vous, les gens en studio, mais j'écoutais les épisodes comme en 2002, 2003, fait que ça, et après, là.
Ouais.
Fait que ça commence à être un peu flou dans ma tête, mais pour ces détails-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que toute l'histoire de Gilmore Girls commence avec l'argent, et l'argent qui est tout d'un coup accessible, qui devient un échange de services ou de créer un sentiment de présence avec la famille. On va échanger de l'argent contre les vendredis soupers, tout ça. Mais je voulais pas tant parler. je te fais rire, hein, Jean-Michel. Mais je voulais pas tant parler de comme, parce que déjà on pourrait dire plein de choses par rapport à l'argent. On pourrait dire que les filles sont pas capables. Il y a MarketWatch.com qui a sorti 5 horribles leçons d'économie dans Gilmore Girls, donc qui disent que elle commande toujours du take-out, elle a fait aucun savings, excuse-moi, je traduis simultanément, mais elle a fait aucune
économie
pour l'éducation de sa fille. Ils passent leur temps à prendre des risques financiers sans absolument faire aucun plan. Mais je suis pas économiste ou je ne suis pas
comptable,
donc c'est des choses que je maîtrise moins. Mais il y a aussi le Time Magazine qui a fait une espèce de mise en place de qu'est-ce que ça aurait vraiment donné si on avait voulu vivre la vie de Lorelai Gilmore et acheter la maison qu'elle avait au tout début de la série. Et ça donnait en fait qu'elle aurait probablement un salaire d'à peu près 62 000 $ par année, et elle aurait été capable de se payer une maison à 2,8 millions. Ce qui est quand même assez difficile quand tu vis ta vie sur le take-out et sur les cafés, à 3-4 cafés par jour chez Look. Quoique je me demande même si elle les payait, mais bon, ça c'est une autre question.
Ouais.
mais tout ça pour dire que, tu sais, on s'entend que c'était un petit peu... c'est un peu irréaliste. Il y a aussi donc toute la notion de comment est-ce que Rory a été capable dans la dernière saison de voyager autant. Comment est-ce que tu vis ta vie pendant un an en étant la maîtresse d'un homme archi riche qui te fait voyager? Amy Sherman Palladino a été questionnée sur comment est-ce qu'elle a réussi à se payer ces voyages-là. Et je vais vous lire sa réponse textuellement parce que je pense que ça parle vraiment beaucoup. Donc, je vous fais la lecture. A lot of it was points. When you travel that much, you have points. She's flying economy, she's flying JetBlue on a deal, and she's using her points. We didn't really focus on money because, quite frankly, I don't think anyone worried that Rory is going to starve. Between Emily Gilmore, Lorelai Gilmore, Logan, there are so many well-off people in her life that would have made sure she didn't fall through the cracks. Et c'est ça qui m'a fait réagir, en fait, dans Gilmore Girls. Et je me suis dit, on est en train de parler d'un monde qu'on pourrait prendre pour acquis que Gilmore Girls est une... Oui, c'est une fiction, mais c'est pas une fiction qui se vante d'être particulièrement symbolique ou particulièrement d'ordre de la fable. Donc, si c'est un moyen réaliste, mais avec aussi la beauté de la fiction, comment est-ce qu'on deal avec toutes ces questions-là de l'argent? Comment est-ce qu'on deal le fait que l'argent qui est passé d'une personne à l'autre, qui comme si c'était... c'est comme si ça se donnait gratuitement, comme si c'était...
ça poussait dans les arbres.
Ça poussait dans les arbres, exactement. Merci de me donner... de mettre les mots dans la bouche. Mais c'est comme si ça poussait dans les arbres. Et quelle image ça donne, en fait, de justement une Lorelai qui dit... qui dit « j'ai travaillé fort, je me suis débrouillée, j'ai eu la vie difficile ». Mais ça, tu le dis, mais on nous l'a jamais montré. Et c'est à force d'écouter la série, en le réécoutant à l'âge adulte, je me suis fâchée parce que je me suis dit, je trouve ça hypocrite. Parce que quand je l'écoutais à 8-9 ans, c'est correct. Parce que j'ai 8-9 ans, je comprends pas la valeur de l'argent. Puis je trouve ça bien réaliste, qu'est-ce qui se passe. Puis là, un moment donné, tu fais comme, attends, je l'ai eu pas facile. T'es vraiment privilégiée, Lorelai. T'es excessivement privilégiée. Ça veut pas dire que c'est un mauvais personnage. Ça veut juste dire, arrêtez de nous garrocher dans la gorge en tant que spectateur et spectatrice que Lorelai Gilmore est une personne qui a eu de la misère et qui l'a eu vraiment difficile. Et je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure en hors d'onde de l'épisode où est-ce que Lorelai va chercher son diplôme à l'école des affaires, où sa famille va la voir et décide d'engager un réalisateur pour filmer sa montée pour aller chercher son diplôme avec son beau chapeau et tout ça, puis que c'est bien fantastique, alors qu'elle a passé l'épisode à dire aux autres « Je suis une personne comme vous, je suis une personne qui l'a eu difficile. » Ah ben finalement, pas du tout. C'est faux, tu n'es pas quelqu'un de notre groupe. Tu es quelqu'un de la classe privilégiée. Mais pourquoi est-ce que Lorelai a tant travaillé à justement casser cette image-là de personne privilégiée? Mais probablement parce que she didn't check her privilege. Mais bon, ça fait partie de la game. Mais c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup réagir. Et dans la dernière saison, ça a été encore pire. On a parlé du côté cyclique de la série. Le fait que les choses se répétaient sans cesse. Que c'était une espèce de fatalisme ou déterminisme, je sais pas trop comment le dire. Mais justement que ça ne cesse de recommencer dans un monde idyllique où est-ce que justement on se dirait, bon ben, c'est correct. Il y a des enjeux d'économie. On va essayer de tout faire ça fonctionner, mais les enjeux de l'économie durent 2-3 épisodes, puis seraient tout le temps par un chèque signé par maman, papa, tout le temps. Et qui sont les personnages proches de Lorelai et de Rory? On parlera pas de Dean et de Jess, parce que évidemment, c'était d'autres adolescents. Tu demandes pas à d'autres adolescents de t'aider à t'aider financièrement parlant. Mais qui a donné à Lorelai? Même Luke a donné à Lorelai. Christopher, qui reçoit un immense héritage, va donner à Lorelai. Les parents, qui va donner à Rory, tout ça. Rory, quand elle veut plus voir sa mère, elle s'en va vivre dans la maison de piscine de sa grand-mère, qui est probablement plus grande que la maison que je vais réussir à me payer dans les 15 prochaines années. Puis, c'est pas, comme je dis, une critique du fait que on pourrait se plaire à regarder une série sur les gens riches et célèbres, ou du moins sur de regarder des enjeux de gens qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent, puis qu'on sait pas d'où est-ce que ça pousse. Comment ça se fait que Stars Hollow, où tout le monde a des jobs de mécanicien, où tout le monde a des jobs de cuisinier et tout ça, est capable de se payer un mariage avec 118 personnes qui seront tous avec un beau couvert, avec des belles décorations? Ou est-ce que Lane, qui vit dans une situation hyper difficile, ou est-ce qu'elle elle quitte le nid familial puis tout ça, puis elle va aller se débrouiller seule en travaillant au café de Luke, va quand même être capable de se payer 2-3 robes, tu sais, pour un seul mariage, tu sais. J'ai l'air de poser beaucoup de questions parce que j'ai pas les réponses, parce que je suis au final pas certaine de qu'est-ce que était l'intention de l'auteur. Est-ce que tu voulais nous démontrer juste une belle... Dans le fond, est-ce que tu voulais nous montrer un beau Pinterest? Est-ce que tu voulais que le compte Instagram des personnes qui traînent à Stars Hollow soit magnifique tout le temps? Donc voilà, on s'en fout du réalisme. Ou au contraire, non, c'est vraiment ta façon que tu crois qu'il faut que les gens voient la difficulté d'être dans une dynamique de lutte des classes. Là. Personnellement, j'ai beaucoup de malaise avec cet aspect-là de la série. Plus je vieillis, plus que je trouve ça ridicule, puis ça me fait décrocher de la série. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais moi, pour répondre, pour apporter une piste de réponse, je sais pas si c'est ça qui me dérange, parce qu'au fond, on le sent tout le temps si on regardait la scène avec, comme je disais aussi en hors studio, la scène de la famille où elle reçoit son diplôme, puis au final, même si elle avait honte de ses parents et de la richesse de ses parents, au final, elle est contente, elle est fière que ses parents soient avec elle. On sent toujours quand même, tout le monde rappelle que quand t'es une Gilmore, tu peux pas être autre chose que tu peux pas être autre chose que la dynastie Gilmore. Il y a toujours une appartenance tu t'en vas cueillir des cerises à Vancouver, si tu es un enfant de riche, tu seras toujours un enfant de riche, peu importe le linge que tu portes. Tu vas toujours appartenir à une classe sociale, puis la série nous le fait quand même assez bien comprendre qu'ils peuvent pas se dégager, même si elle a eu dur, même si elle a fait des efforts, elle pourra jamais se dégager de la classe sociale. Moi, peut-être l'aspect économique qui me dérange le plus, c'est la façon que tous les hommes de la série, ou presque, là, même Christopher qui a un petit peu de difficulté, finalement il y a l'héritage, tous les hommes sont capables de gérer un budget. Le Richard Gilmore, il est économiste, il donne des cours d'économie, il travaille là-dedans. Luke, il est capable de ramasser de l'argent comme ça se peut pas en vivant de façon austère. Puis toutes les femmes, on les voit dépenser de l'argent sur des affaires, des niaiseries, tout le temps, sont pas capables de gérer l'argent, ils sont tout le temps en train de demander de l'argent. Quand Emily, elle a des problèmes conjugaux, elle s'en va s'acheter un avion. À chaque fois qu'elle a une chicane, elle remplit la carte de crédit de son mari. Quand Lorelai va avoir besoin d'argent, elle va aller voir ses parents, elle va aller voir Luke pour avoir un prêt. Donc, elle est toujours en train de dépendre, finalement, malgré le fait de son émancipation, malgré le fait qu'elle travaille fort, elle est toujours en train de dépendre de l'autre, alors que les hommes, eux, sont capables de gérer leur argent de façon très convenable. Fait que même en dehors des classes de privilèges, il y a quand même une problématique ici, où peut-être la seule personne qui est capable, c'est Lane, là.
Même Jess, qui est un personnage excessivement, l'espèce d'irresponsable, rebelle, un peu même l'anarchiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme terme, est capable de s'ouvrir une librairie indépendante et d'y survivre pendant au moins toute la série, parce qu'il l'avait, je crois, dans la saison 7, 8.
Oui, il y a encore 8, sa maison d'édition.
Il y a encore sa maison d'édition puis sa librairie. Je veux dire, il est parti de rien. Tu sais, c'est vraiment fantastique. J'aurais voulu voir l'histoire de Jess qui part de rien puis qui réussit à avoir une maison d'édition.
Ça a failli se faire, en fait, parce qu'il y avait la possibilité.
Il y a eu un spin-off.
C'était planifié, mais je pense pas que ça s'est fait.
Écoute, je me demande s'il n'y a pas eu quelques épisodes, puis ça a juste foiré, comme ça arrive souvent.
Ben, Milo, je pense qu'il était peut-être pas simultanément, mais probablement approché pour Heroes à partir de ce moment-là.
Ouais, ça se pourrait. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'il partait rejoindre son père en Californie à un moment donné. L'objectif était de faire un spin-off avec Jess en Californie, puis de suivre sa vie, mais c'est comme jamais arrivé finalement. Fait que donc finalement ils l'ont fait partir de Stars Hollow comme pour rien.
Mais ça devient très intéressant ces trucs-là, parce que on peut toute l'idée de l'économie nous force en quelque sorte à faire des théories de fans.
Oui.
Tu sais, surtout sur comme la 8e saison, je sais que les gens ont eu beaucoup de difficultés avec le fait qu'elle fait beaucoup d'allers-retours. Stars Hollow, Londres, Stars Hollow. Puis les gens ont fait, ben, inévitablement, c'est Logan qui a payé pour ça.
Oui, mais ça reproduit un peu la relation que les Gilmore, les parents, ont avec Lorelai et Rory, où ils disent, je te donne de l'argent en échange de ta présence.
Exactement.
Ouais. C'est un peu comme si Logan achetait la présence de Rory en lui payant ses billets d'avion.
Tout à fait.
Mais moi, je fais l'extension de cette idée-là d'avoir à combler les trous par rapport à l'argent avec Jess. T'sais. Jess, il a juste à voler des autos pour entretenir cette brique.
Ouais.
Mais, il est copropriétaire, par contre. Peut-être que c'est les autres propriétaires.
Mais j'aurais aimé ça voir l'histoire de Jess qui vole des autos, comme pour réussir à survivre.
Ouais. Bon, ou pour entretenir 50% d'une propriété.
Mais, même, je repensais à ça, là, pour les femmes, là, quand on. Émilie, là, ils investissent dans l'importance des femmes, si on veut, là. Tu sais, Émilie, à un moment donné, elle devient plus rentable, c'est son seul emploi, même si elle n'a pas d'emploi, c'est de faire préparer les repas pour. Préparer genre les organisations d'événements, puis finalement ils veulent la remplacer parce qu'ils pourraient avoir mieux pour moins cher, puis là elle a plus d'importance, puis c'est pour ça que Lorelai se sépare de son copain de l'époque. Fait que quand même dans le travail, ben quoi que ce soit, au moins c'est pas un travail, ben non, elle est pas rémunérée pour ça, elle a juste une importance, c'est un travail invisible en plus.
Ah oui, ben Emily Gilmore, ce n'est en plus que la mère de famille là qui fait aussi tout ce travail invisible.
Mais voilà, puis plus j'essaie d'expliquer mon point, en fait, puis plus je lisais en fait sur justement l'espèce d'incohérence, comme je disais, pour terminer en fait sur mon point, c'est pas, je pense pas non plus qu'il faut se dire que c'est complètement ça enlève rien à tout le reste qu'on peut apprécier à la série, mais c'est juste de se dire il y a vraiment quelque chose d'hypocrite dans le discours des Gilmore, je trouve, par rapport à l'argent, ou du moins dans le discours de Lorelai en particulier, parce que je pense que c'est comme si Rory et Emily savent leur classe, ils savent où ils ont affaire, ils profitent de ce qu'ils ont de leurs privilèges, oui. Puis ils les assument totalement. Lorelai ne veut pas l'assumer, et je pense que c'est pour ça qu'on, parce que même si mettons le personnage de Rory ou le personnage d'Emily, par moment, on a pu les trouver vraiment trop intenses ou trop. Et là, il vient des mots que j'ai pas envie de dire à la radio. Mais tout ça pour dire que je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant de se dire que mais j'aime beaucoup ton point, Stéphanie, en fait, parce que ça vient comme un peu de détruire ma question sur l'hypocrisie, si justement tout le reste de la série parle du fait que non, regarde, t'essaies de t'extirper, mais tu t'en extirperas pas. Mais c'est le gaspillage aussi qui me gosse dans cette série-là. Il y a tellement de gaspillage de matière. Je veux dire, Lorelai, elle en a pas tant d'argent. Elle s'achète un espèce de gros pack-sac pour aller faire le chemin
puis
de
Wyatt. Puis elle l'abandonne,
puis elle dit à donner, puis tout ça. Puis je veux dire, ils abandonnent les choses quand ils en ont plus besoin. Tout est jetable, tout est renouvelable, tout est remplaçable. Mais par exemple, c'est vraiment difficile, l'argent.
Mais c'est le mythe de la self-made woman.
Aussi,
qui est arrivé avec. J'écoutais un podcast, c'est Radiolab qui diffusait un autre podcast, et il parlait du fait que c'est né avec Benjamin Franklin, qui a écrit sa biographie à un moment donné, puis qui s'est décrit comme ça, comme un self-made man, mais il a jamais parlé de tous les gens qui l'avaient aidé, puis des gens aussi qui avaient été comme sacrifiés dans le fait que lui s'est fait comme personne. Fait que tu sais, Lorelai, c'est comme le mythe américain.
Mais c'est vraiment dérangeant parce que. Ben, tu sais, c'est parce que c'est compréhensible, mais tu veux pas leur pardonner. Les riches qui savent pas c'est quoi la vraie pauvreté, il y a pas un maudit itinérant. Il y a une personne qui joue de la musique, mais il y a pas un itinérant à Stars Hollow, tu sais. C'est comme Trump quand il dit, je l'ai eu dur, j'ai juste eu un prêt de 10 millions de dollars. Genre, ben oui, bravo, tu l'as eu dur. Pauvre toi. Tu sais, c'est un peu ça. Genre, tout le long, elle a eu dur parce que par rapport à sa classe sociale, elle a l'impression que ça, c'est difficile, mais.
Mais en même temps, c'est-tu du tourisme économique? Parce que je me rappelle, quand ils font leur fuck it, ton backpack, l'Europe, Emily, elle arrive, puis tu sais, Emily, je pense, Emily puis Richard sont comme, ah, c'est cool, faut aller voir ces gens-là, on a des amis qui habitent là, on va vous donner un coup de main, puis ils sont comme, non, on va à l'auberge de jeunesse.
Ben oui, mais on le voit pas.
Non, mais ça devient le tourisme de statut économique. Non, on veut faire en dessous de nos moyens.
Faire comme les pauvres.
Ben oui. On va faire comme les pauvres. C'est vrai, il y a beaucoup de « nous jouons les pauvres ». Et je trouve ça excessivement insultant. Je sais pas si c'est parce que je suis intervenante avec des itinérants, mais je trouve ça excessivement insultant.
Il y a beaucoup de gens qui disent que Stars Hollow, c'est comme t'sais, la ville en dessous du sapin de Noël. Là.
Ben oui.
Puis je pense que tu sais cette relation-là à l'argent participe beaucoup à ça.
Ouais, oui. Ça serait probablement le plus gros argument. Parce que qu'est-ce qui est très intéressant aussi sur comment Gilmore Girls fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de création de drame superflu. Il n'y a pas de moment où il y a quelqu'un qui a, je ne veux pas dire une crise de cœur, mais tu sais comme ces espèces de rebondissements qui servent.
Fondamentalement. Il y a eu une crise de cœur, Richard.
Où t'en vas-tu avec ça, Jean-Michel?
Je pensais vraiment que. J'essayais de pas aller vers le sniper, mais je vais aller dans le sniper, fuck it. Il n'y a pas d'épisode où il y a un sniper dans le centre-ville. Puis tout le monde est comme. Ouais. Tu sais, les contraintes externes exagérées, en quelque sorte. Mais les drames de Gilmore Girls sont quand même
mais
très terre
à terre. Exactement. Tu sais, je veux dire, les drames tournent quand même autour de justement, là, comme il m'a dit quelque chose, ça m'a fait de la peine, puis on va en parler que ça t'a fait de la peine. Ce qui est une raison aussi pourquoi les gens appréciaient cette série-là, je pense, c'était du très, très, très feel-good.
Oui.
Mais en même temps, c'est sûr que là, à un moment donné, tu te dis comme, ben, c'était bien. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que c'était vraiment le fun à 10 ans, mais peut-être que dans la vingtaine, trentaine, ça devient. Et peut-être que ça devient encore plus de la fable, exactement.
Mais je sais pas. Moi, je pense que c'est juste le problème que ça fonctionnait à une époque où c'était correct. C'était une belle figure de féminisme. C'est un féministe blanc. Il n'y a pas une maudite personne racisée dans cette émission-là. On va se le dire.
À part Lane.
À part Lane, ouais, c'est vrai. C'est qui?
Michel, un peu, quand même.
Mais tu sais, ils vivent pas de racisme, il y a pas de pauvreté, il y a pas de vrai, tu sais, de vrai questionnement, il y a de la violence, mais on est tellement content qu'il y ait des femmes qui réussissent dans ce monde d'hommes-là, puis finalement, ils sont full privilégiés, puis après, quand on arrive au dernier opus où le féminisme de tout le monde a un peu évolué, puis on est arrivé à un féminisme intersectionnel, mais on se dit que quand ils rient des trigger warnings, quand ils fat shame du monde, quand ils se disent que, oh mon Dieu, c'est leur vie, c'est tellement compliqué, le dernier opus, il pue, là. Ouais. Tu te dis, genre, il aurait pas pu, tu sais, ça aurait pu évoluer aussi avec, puis ça aurait pu amener des questions super complexes au niveau du racisme en amenant des nouveaux personnages qui vivraient pas je sais pas, là, Hélène, oui, OK, racisée, mais c'est vraiment stéréotypé. Je suis d'une famille coréenne et je dois absolument être coréenne.
Mais l'affaire, c'est ça, c'est que quand on parle de cycle, c'est que la dernière saison se termine sur, justement, la demande de Lorelai à Emily. S'il te plaît, je peux-tu avoir de l'argent? Ben oui. Puis là, elle dit... Ah, c'est drôle, hein? C'est comme, me semble qu'on se retrouve tout le temps là. C'est comme.
Puis elle échange ça contre, faut que vous veniez en vacances chez nous, à ma maison, à Nantucket.
Puis voilà, on change rien. Fait que. Je vais clore en disant un petit commentaire positif, par exemple, sur la question peut-être politique. Là, on a parlé d'argent et tout ça, mais sur la question plus politique, on pourrait dire quand même à un certain point que Gilmore Girls fait quand même la promotion de la démocratie directe. Et ça, c'est une très belle chose. Donc, c'est une démocratie donc qui se déroule un peu comme Francis Dupuy-Déry dirait peut-être des communes du Moyen-Âge, justement, où les gens se rassemblaient dans des petites communautés puis faisaient justement la décision en groupe puis votaient sur des décisions pour qu'est-ce qu'elle allait mieux avec la communauté. Alors ça, c'est un aspect de Gilmore Girls qui est très rafraîchissant.
Absolument.
Alors, voici le beau côté de politique.
Non, parce que le communautaire est ultra souligné avec toutes les
solidarités.
Tous les petits événements de, comme, tu sais, le festival des photos. Ben, quand ils deviennent tous des photos.
En fait, il y a des festivals pratiquement toutes les semaines.
Mais c'est ça, c'est des ça a comme fonction de rassembler des humains autour de
où il y a l'achat des paniers pour pouvoir prendre son panier pour pouvoir manger le panier avec quelqu'un autour de pique-nique, puis que ça servait à genre ramasser des fonds pour je sais pas trop quelle affaire de genre l'entretien du gazebo, je sais pas trop quoi. Là.
Plein de questions à l'époque pour un féministe de l'époque était formidable, par exemple Lane qui aime pas avoir des relations sexuelles, qui tombe enceinte, qui aime pas, qui est pas vraiment contente de sa maternité, mais en même temps, c'est toujours un peu récupéré de façon dommage parce qu'elle suit le cycle de sa mère, parce que finalement, alors qu'elle voulait s'émanciper, faire de la musique, pas avoir d'enfants, pas se marier, mais finalement, elle se marie, puis sa première relation sexuelle, elle tombe enceinte, puis...
Mais si on apprenait...
Elle vit avec sa mère.
Mais imagine qu'on apprenait ensuite, dans la nouvelle saison, que, genre, t'as juste ce link qui dit « Oui, mais you know, I'm gris sexual. » Puis là, ça a été comme « Wow! OK!
Ouais, »
Comme on est en train de dire quelque chose, mais là, on dit rien.
Il y a toute cette possibilité-là de le ramener puis de le pousser plus loin qui est dommage parce qu'il aurait pu vraiment emmener la série puis essayer de le transformer avec des lunettes féministes aujourd'hui plus intersectionnelles. Puis là, ça leur a été vraiment fort, puis la série a été ailleurs, mais là, finalement, tu te dis juste crise de privilégié. Comme, c'est dommage. Ouais.
Mais puis, il tape tellement sur les millennials qui sont la génération qui va plus loin.
Oui, c'est vrai.
Donc, que ça pouvait pas aller plus loin, finalement.
C'est vrai. Mais au risque d'avoir sonné sévère avec l'œuvre...
Trop! Mais pour moi.
Ben écoute, en tant que femme, je pense que je suis capable d'avoir aussi une je suis capable d'être plus challengée.
Mais c'est parce que moi, je pense que c'est vraiment encore, j'en viens au fait qu'on est arrivé ailleurs. Tu sais, l'œuvre pose des bonnes questions, mais personne ne check jamais ses privilèges. Il n'y a pas l'idée de la déconstruction. Oui, on veut aller de l'avant. Oui, on veut avoir des bonnes valeurs. Oui, on veut poser des questions. Mais personne ne se pose des questions à lui-même. T'sais, personne ne se dit, je vais m'arrêter pour me demander si moi, je ne fais pas des affaires pas correctes.
Absolument. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un trouble d'introspection par rapport à la majorité des personnages, sauf Jess, mais bon, Jess est badass.
Ouais.
Parlons tant qu'à parler de personnages problématiques. Bon, comment tu te sens par rapport à Rory maintenant?
Ah, je me sens trahie. Je me sens tellement trahie. En fait, moi, je dois admettre, là, tu posais la question tantôt, je sais pas à quel âge je vous l'avais regardé. Moi, j'ai réécouté deux fois au complet toutes les saisons dans ma vingtaine et une fois... En fait, une fois dans ma vingtaine, une fois dans ma trentaine, mon début de trentaine. Fait que donc, je l'ai vu adulte. Ça a été ma feel-good série, là, vraiment. Et l'affaire avec... Je reconnais tous les défauts de Rory, là, c'est une white privileged girl, là, puis comme, elle a plein de défauts, mais je me suis toujours identifiée à elle à un point, là, je sais pas si vous vous rappelez, sur Facebook, à un moment donné, il y avait un truc, là, tu mets trois images de personnages pour définir qui tu es, là, moi, j'ai mis trois photos de Rory.
Okay. Fait que, wow.
C'est ça, Rory, pour moi, là. C'est le côté bonne élève, là, le côté studieuse, puis genre, qui a une névrose de planification, là. C'est là-dessus que je m'identifie à elle.
Mais j'allais juste dire qu'être une white privilege, c'est pas un défaut. C'est un,
ouais,
c'est un
non,
état.
Mais elle a des défauts aussi.
Elle a des défauts.
Parce qu'elle se rend pas compte de ses privilèges, puis parce qu'elle finit par dépendre des gars tout le temps, puis elle les manipule un peu aussi. Puis elle a plein de défauts. Mais, bon, donc, je me suis comme intéressée à sa trajectoire, là, si on veut. Je me suis intéressée au fil narratif. En fait, là, ça doit être mon défaut de prof de littérature. Parce que pour moi, Rory, c'est. On en parlait hors d'onde, puis moi, je trouve que c'est celle qui a évolué puis qui a appris le plus, même si vous, je sais que vous n'êtes pas d'accord, là, mais je trouve que Émilie, si on exclut le dernier opus, je trouve qu'Émilie, elle évolue pas tellement à travers la saison.
C'est vrai.
Je trouve que Lorelai tourne un petit peu en rond aussi, même dans le dernier opus. Je trouve qu'elle finit exactement au même point où elle était supposée être à la fin de la saison 7. Et je trouve que Rory, elle, peut-être parce que c'est la plus jeune, elle va frapper des murs, elle pense qu'elle peut tout réussir, puis là, elle arrive à Chilton, puis elle se rend compte que, ouf, elle est vraiment pas de niveau, finalement. Fait que là, elle pédale. Faut qu'elle réussisse, puis qu'elle arrive, puis là, finalement, elle finit meilleure de sa promotion, là, tu sais, elle a remonté la pente incroyablement. Elle se rend compte qu'elle s'imaginait qu'elle pouvait rentrer dans Harvard sans aucun effort, autre qu'avoir des bonnes notes. Puis là, comme elle tombe en bas de sa chaise quand elle se rend compte qu'il faudrait qu'elle se monte un dossier un petit peu plus impressionnant que ça. Mais elle va quand même finir par le réussir. Bon, évidemment, tout ça se passe dans une espèce de magie de... On sait jamais exactement comment elle réussit. Mais elle réussit, tu sais. Elle va se faire dire qu'elle a pas ce qu'il faut pour devenir journaliste, mais à la fin, elle va quand même être rendue au point où elle s'en va suivre Obama, tu sais. Donc, elle va quand même se rendre à... Non, fuck off, je suis mon rêve. J'ai dit fuck off à la radio.
T'as le droit. Pis t'as d'autres sacres pendant que tu parles de Gilmore Girls qui te viennent à l'esprit.
Parfait! Il y a le moment aussi où, bon, elle va comme s'égarer un peu, puis elle va partir de Yale, puis elle va comme devenir Emily Gilmore, là. Qui est un petit peu troublant. C'est vraiment une saison que j'aime pas. Mais à un moment donné, c'est Jess qui va la secouer, d'ailleurs, puis elle va finir par retourner à Yale, puis elle va devenir éditrice du journal, puis elle va encore super bien réussir, là. Tu sais, c'est comme l'enfant chéri de Stars Hollow, là. Elle réussit tout ce qu'elle touche, là, même si des fois elle pédale un peu, elle finit par tout réussir tout le temps. Et c'est aussi celle qui fait comme le pont entre les deux mondes, parce qu'elle a les privilèges de la richesse, mais elle a pas la révolte de Lorelai, là, si on veut. Mm. Fait que donc, elle profite de ce que les Gilmore peuvent lui donner, mais elle embarque pas 100% dans toutes les conventions sociales, je trouve, quand même, qu'eux tentent de lui imposer, là. Genre que, ils sont, tu sais, elle en revient pas à Emily que Rory ait pas d'appartement, puis elle est comme, mon Dieu, t'es homeless, quand dans le dernier opus, là. Puis Rory, elle s'en fiche un peu, là, d'être homeless. On s'entend, elle est en train de dépendre de sa mère, là, elle est retournée chez sa mère, mais je dirais comme, elle est pas outre mesure par tout ce qui outre sa grand-mère, je trouve, côté convention sociale. Puis en fait, moi, je pense que ce que j'aimais le plus de ce personnage-là, c'est sa finale, qui est que finalement, Logan veut l'épouser, puis elle a dit « Non, moi, je veux ma carrière, je vais aller faire ce que je veux faire, puis je vais pas rester accrochée après un gars, puis le suivre, puis rester prise à comme pas trop savoir ce que je vais faire parce que j'ai suivi un gars. » L'affaire, c'est que là, le revival arrive, elle est dans un creux professionnel, ça marche pas du tout. Elle accumule un peu... On sent qu'elle a eu un succès, là, mais elle accumule comme des échecs. Là. Elle snob le site web qui lui court après. Elle snob la possibilité d'enseigner à Chilton, qu'elle se fait offrir comme si « Non, moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je suis une journaliste qui a publié dans le New Yorker. » Fait que comme, je suis meilleure que ça. Ça marche quand même pas. Et dans un creux personnel aussi, son chum qui est comme absent, là, je veux dire, sauf que c'est la pire relation de Rory, là. Comme, elle arrête pas d'oublier qu'il existe. C'est un peu ridicule, pis c'est même pas drôle.
Elle mérite est aussi insignifiant qu'elle dans cette saison-là.
Oui, elle est très insignifiante dans cette saison-là. Oui, elle mérite, effectivement, mais tout ça fait partie du fait que c'est décevant, je trouve. Parce qu'elle était tellement, a tellement fini sur une belle place.
Ah, mais quelle fin! Moi, je suis d'accord, là. Enfin, elle dit aux hommes, genre, elle dépend de personne, elle veut réaliser ses rêves. Je suis tout à fait d'accord.
C'est ça que je trouve qu'elle évolue, en fait. C'est qu'à un moment donné, elle est restée prise dans des histoires de gars pendant tellement longtemps. Puis à un moment donné, elle fait comme, OK, non, je vais aller faire mes affaires. Puis je vais aller devenir journaliste. Puis finalement, bon, ça marche pas si bien, mais c'est comme si au premier échec, là, elle était comme, oh, mais là, je suis perdue. Puis je suis retournée chez ma mère. Puis j'ai un chum que j'arrête pas d'oublier. Puis elle voit encore Logan qui lui paye les billets d'avion, tu sais. Puis finalement, sa seule réalisation dans tout le dernier opus, c'est qu'elle va écrire le livre de leur histoire. Moi, je trouve ça terriblement têteux. Qu'elle écrit.
Mais tu parles, puis ça me fait vraiment réfléchir à quelque chose, puis je vais revenir à ce que Jean-Michel a dit en tout début d'émission. C'est vrai que quand j'ai réécouté aussi dans la dernière année, en 2016, j'ai réécouté toute la série au complet en attendant de pouvoir écouter les quatre épisodes qui allaient venir sur Netflix. C'est vrai que la finale est vraiment excellente. C'est vrai que la finale est merveilleuse, puis que...
Non, de la 7e saison.
Oui, absolument.
Oui, on parle pas de la 8e.
C'est ça, la finale de la 7e saison est vraiment parfaite, parce que tout le monde est à peu près à la place où on espère qu'il soit. Et en même temps, justement, c'est le retour. Ça finit dans le café de Luc. Il y a quelque chose de réconfortant. Il y en a qui ont dit que c'était un petit peu anti-climax, mais moi, je trouvais ça parfait. Puis, ce que Jean-Michel a dit en début, c'est qu'on dirait que c'est comme si toute la dernière saison de la 8e nous avait enlevé, en tout cas moi ça m'a fait, je pense, cet effet-là, nous avait comme enlevé le beau vernis qu'il y avait autour de ça, puis c'est comme si là on voyait que les défauts, parce qu'elles ont, ils ont comme été amplifiés dans la dernière saison, où est-ce que tout ce qui était potentiellement tannant, mais qu'on pouvait passer au travers de plein de choses, là tout d'un coup tout n'était que des caricatures, et que puisque c'était que des caricatures, on n'arrive plus à se réaccrocher à ces personnages-là.
En fait, c'est un peu là que je m'en allais d'une certaine manière, si je peux poursuivre. Jean-Michel me fait des signes.
Régie, c'est ça que je fais.
Mais non, c'est ça, je m'en allais un peu vers ça, parce que je trouve que c'est un peu comme si... Je dis, j'ai l'impression d'avoir été trahie, mais j'ai l'impression d'avoir été trahie parce que tout d'un coup, je fais « Oh mon Dieu, c'était ça, Rory, tout le long. »
C'est ça.
Et là, ma trahison, c'est que j'ai l'impression de m'être faite flouer d'une certaine manière, parce que ça a tellement fini à un endroit où j'étais comme, ah non, OK, c'est bon, elle a fait des niaiseries, elle a fait des mauvais choix, mais bon, elle était jeune. Là, finalement, elle arrive à un bon endroit. Et là, tout ça se désagrège parce que la créatrice est comme pas capable d'accepter cette finale-là qu'elle a pas créée elle-même. Mm-hmm. Et elle s'obstine à vouloir finir avec sa leçon de morale qu'on a comme apprise, là, à un moment donné, qui est, tu peux pas tout planifier dans la vie. Puis, des fois, la vie t'envoie des balles courbes. Puis, elle l'a dit en entrevue, c'est ça qu'elle voulait que Rory apprenne de la dernière saison. Puis je trouve que Rory, elle a plusieurs fois fait face à cette affaire-là, là, dans toutes les saisons, en fait. Puis à un moment donné, on avait comme compris. Puis il y a aussi l'idée du cyclique. Là. Elle voulait que ça finisse un peu comme être enceinte et monoparentale comme Lorelai l'était, même si, à mon avis, c'est pas la même situation, parce que dans le cas de Rory, j'ai pas l'impression que c'est un choix, alors que dans le cas de Lorelai, oui. Mais donc, c'est comme si tout d'un coup, en faisant d'elle une espèce de cliché de millennial qui a plus de maturité, qui est comme pas capable de prendre des bonnes décisions, puis qui retourne chez sa mère en pleurant parce que le monde, c'est donc difficile. Mm-hmm. Ben là, j'avais vu comme apparaître tout ça chez Rory dans les saisons précédentes.
Exactement. Exactement.
C'est ça qui me rend triste, en fait, au bout du compte, tu sais.
Donc, je vais poser la question parce qu'on l'a dit en introduction. Moi, j'ai pas vu la 8e saison. C'est pour cette raison-là que j'ai peut-être une opinion plus optimiste au final?
Probablement.
Peut-être.
Mais, moi, je sais pas parce que moi, je l'ai vu, puis là, j'étais un peu déçue de la dernière saison. Puis là, finalement, je me suis mis à y penser parce que j'ai toujours aimé ça. Là, j'ai l'air de vraiment négative depuis le début, mais j'étais fan. Je l'ai écouté. Ben oui. Je l'ai réécouté à l'automne passé au complet en un mois. Fait que c'est vraiment dégueulasse. avec une amie, on faisait ça toutes nos journées. On écoutait ça. Fait qu'elle va être vraiment jalouse en ce moment que j'en parle à la radio sans elle. Mais
ça
vraiment.
Ça veut dire 5 à 7 épisodes
oui,
par jour.
Oui, oui.
C'était
oui.
Un job à temps plein, là.
Oui, oui, on écoutait, on faisait à manger en l'écoutant, on promenait dans l'ordinateur, parce que bref, on faisait juste écouter Game of Girls. Je sais pas si ça va être honte.
Dis bonjour.
Bonjour, Rosalie, Asselin. J'ai dédié l'épisode avec lequel on a passé autant de souder notre amitié sur Game of Girls. Je pense qu'on serait pas devenus aussi amis si on n'avait pas écouté. Ça de façon plus qu'en rafale, c'est dégueulasse. Bon, j'en conviens.
Mangez-vous de la junk en même temps? Parce que
non, on faisait genre du risotto, on cuisinait en même temps, on était... Non, tout allait bien. Non, je mangeais aussi beaucoup de ramen, mais en tout cas, peu importe. Bon, mais tout ce que je voulais te dire, c'est que là, pendant que je réfléchissais, j'étais comme, non, mais je veux défendre mon point de personne qui vient d'une famille monoparentale, matricentrique, qui est la première, c'est ma première représentation de toute, ben non, ce que je le disais, Buffy aussi, dans Charm aussi, la mère sans monoparentale, mais c'est la première fois que c'est centré, c'est la première fois que je peux m'identifier à une famille puis me dire, oh yeah, elle a fait le choix, comme ma mère, d'être une femme seule, parce que moi non plus, je viens pas d'un divorce, je viens pas de... Ma mère, elle a décidé d'avoir un enfant seul, à me donner son nom aussi. Puis tout le long, je me suis dit, j'ai essayé de me dire, ah, je vais essayer de parler d'une monoparentalité politique, d'un choix politique de vouloir exclure les hommes, de vouloir exclure une relation de pouvoir au sein de la famille. Donc, plus de travail invisible, plus de soumission par rapport à un homme. Donc, elle rejette aussi sa famille avec l'argent, elle rejette toutes ces choses-là en faisant le choix de devenir une mère monoparentale. Donc, il y a comme tout un empowerment là-dedans. Mm-hmm. Puis là, j'essayais de justifier, mais là, on dirait que je sais pas encore sur le pied de danser. J'essayais de justifier ça, puis plus j'essayais de justifier, plus je me rendais compte que je la trouvais dépendante de tous les hommes de son entourage et du village en entier. Puis là, en même temps, il y avait la finale avec Rory, qui tombait elle aussi enceinte, qui, on sent, elle va sûrement devenir une mère monoparentale pour suivre la lignée. Mais est-ce que c'est peut-être ça aussi le succès de Rory à la fin? Est-ce qu'en choisissant enfin de se sortir des relations, en devenant une mère monoparentale, en essayant d'avoir un centre, un noyau, bon, on peut se questionner sur la maternité, là, sur le besoin de passer par la maternité pour ça, mais est-ce qu'en devenant elle aussi mère monoparentale, parce qu'elle pourrait faire le choix de rester avec Logan... Parce qu'il...
Encore faut-il que Logan veuille, parce qu'en ce moment, il est fiancé à quelqu'un d'autre.
Mais il promet 2 secondes avant une maison, quelque part, pour qu'elle s'en vienne.
Oui, pour lui prêter, mais sans lui, là.
Mais on sent toujours au téléphone, on dirait qu'il attend juste que Rory lui dise « Ah, finalement, j'ai changé d'idée. »
Moi, je pense que Logan, il manipule un peu Rory. Mais sans le vouloir, là. Pas méchamment, mais je veux dire, il aime seul l'avoir à disposition, mais en même temps, lui, son plan de vie est fait. C'est l'impression
qu'il
me donne.
Moi, je l'ai pour mourir, Logan.
Moi, je l'ai pas quand il enlève son chandail.
Ah, OK. Mais
moi, je l'haïssais pas avant la fin de la saison 7.
Ah oui, ça, c'est dégueulasse, hein?
Oui, c'est ça. Oh. Mais avant, je l'haïssais pas parce que c'était comme l'espèce de gosse de riche qui avait un bon fond. Puis là, j'étais comme, ben déjà, c'est beau, c'est tout des privilégiés, là, comme on va y aller à fond.
Un plus, ouais. Un moins, là.
C'est ça, tu sais, on va y aller à fond. Mais bon, mais c'est ça. Mais je pense qu'on pourrait, je sais pas si finalement on va faire un pop en stock sur le shipping, mais en tout cas, moi, je shippais vraiment intensément Rory et Jess.
Ah oui.
Mais en même temps, tu sais, quand je l'ai revue adulte, j'ai fait comme... Ouais, c'est sûr que c'était pas super évident, puis Jess est pas parfait, mais au moins c'est le personnage le plus réaliste peut-être de toute la série, là. Fait que, tu sais, c'est ce qui le rend vraiment plaisant. Mais Mais non, je te laisse.
Ah non, mais en fait, je sais même plus où je m'en allais. Je trouve que c'est peut-être ça l'ancrage politique le plus important de Game of Girls, c'est qui porte le nom aussi de la série, c'est cette idée-là de pouvoir avoir une lignée matricentrique, de pouvoir, tu sais, Emily à la fin du dernier opus se dégage, peut enfin partir, délaisser la mort de son mari, être devenir une femme complète avec ses propres choix. On sent qu'il y a toujours une distinction avec la mère de son mari parce qu'elle voulait pas une autre femme. Puis là, il y a toujours un conflit genre d'une direction envers les femmes, puis envers les mères là. Puis tu sais comme je finissais par remarquer, finalement tous les personnages ou presque n'ont été qu'élevés que par des mères ou par des parents monoparentales.
Ouais, sauf Jess.
Mais Jess!
Ah oui, non, c'est vrai.
Jess, puis à part le moment où il est chez Lou.
À part, c'est ça.
Puis April, avant qu'elle elle-même aille chercher son père.
Elle est chez sa mère,
puis sa mère est vraiment pas contente que Lou soit dans la vie de sa fille. Lane, bon, elle a un père, mais elle est invisible.
Ouais. Ouais, avant la saison 8, on savait même pas qu'elle avait un père.
Paris, elle a une nounou, mais à part ça.
C'est comme élevée par sa nounou portugaise.
C'est tout. Donc, il y a comme vraiment toute une idée que les femmes sont capables d'élever des enfants seules, sans demander, sans avoir. Sans être dans un couple hétéronormatif. Puis moi, ça, je trouve ça fort que rejet du couple hétéronormatif. Bon, il y a plein de privilèges qu'on a parlé, puis moi aussi, ça m'énerve. Mais je trouve que ça, c'est cette partie-là de la série est vraiment intéressante. Puis elle finissait tellement bien, c'est vrai, avec la saison 7 où elle rejette un homme, puis elle décide d'avoir son indépendance. Mais peut-être que ça peut être rattrapé par le fait de devenir une mère, je sais pas.
Ah, je sais pas, ça me rend triste que ça soit ça, la rédemption. Que finalement, le message ultime, ça soit les femmes, pour s'émanciper, il faut élever des enfants tout seul.
Oui,
dehors de la maternité aussi.
C'est vrai,
t'sais.
C'est vrai ce que tu dis. Mais et je vais rebondir là-dessus en refaisant un lien avec ce que Jean-Michel a dit plus tôt, par rapport au fait des drames humains qui sont pas les drames extérieurs les plus externes, les plus impressionnants. Mais ça a été ça. On n'a jamais parlé d'avortement aussi.
C'est vrai, c'est jamais une option.
Ça aurait été génial. Ça aurait été tellement. Elle s'est arrêtée contre les valeurs de sa mère. Elle n'en voulait pas d'enfant. Mon Dieu, si seulement elle s'était faite avorter. Oh.
C'était la candidate à l'adoption dans ce show-là, on s'entend.
Ouais, ou adopter, avorter, peu importe. Ça aurait été malade.
Puis Paris qui devient genre une personne qui gère les
mères porteuses.
Les mères porteuses. Puis qui instrumentalise des femmes pour qu'elles deviennent des
filles. Encore une fois,
c'est la saison 8. Mais c'est vrai, ça n'a pas de bon sens.
C'est encore des femmes qui se réalisent dans leur maternité.
Ouais, c'est vraiment un problème avec comme si la seule façon d'échapper, ça serait d'avoir. D'être une mère seule, par contre. Il y a quand même.
Oui.
Parce que même aussi, quand tu te fais inséminer, il y a plus de chances, il y a beaucoup de chances que tu le fasses. Bon, Lorelai, non, elle va avec Luke, mais il y a quand même des chances que tu le fasses.
Mais je pense qu'elle tombe pas enceinte à la fin de la saison. Elle est pas enceinte, Lorelai. Il essaie de faire un enfant parce qu'il dit on aurait peut-être dû faire un enfant ensemble, puis s'arrêter la
solution. Non, il abandonne cette idée-là. De toute façon, Lorelai, là, elle a pas vraiment l'âge de faire un enfant, là.
Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'ils disent. Mais ils pensent quand même par l'idée que, ben, pour solidifier notre couple ou pour, je sais pas, pour nous rendre, pour nous rendre plus proches ou je ne sais quoi.
Mais finalement, ils succombent jamais aux normes hétéronormatives d'avoir un enfant ensemble. C'est quand même important.
T'as raison. Ouais. Mais
un de leur côté, c'est assez.
Ils en ont chacun un de leur côté, mais ils passent quand même une bonne partie de au moins un épisode et demi, ou du moins, je pense que c'est le premier épisode ou le deuxième, premier épisode, je pense, qu'on voit justement, qu'on voit Luke puis Gilmore dire, puis Lorelai qui se disent comme, ben voilà, il faut qu'on aille se chercher un enfant, on va aller s'en payer un dans la famille, dans la fabrique à bébés à Paris, tu sais.
Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, qui est le fait que la dernière saison, finalement, l'évolution des trois personnages se passe par rapport au deuil du patriarche.
C'est vrai. Mm-hmm.
C'est quand même intéressant, parce que les trois deviennent esselés de cet homme-là qui prenait tellement de place, tu sais, puis elles vont évoluer à partir de ça.
Puis qui représentait la richesse, la famille, le couple parfait. Pas parfait pour Lorelai, là, parce qu'on on le problématise, ce couple-là, mais quand même. Le couple traditionnel. C'est vrai que c'est intéressant comment que chacune va naviguer par rapport à ce deuil-là.
Mm-hmm. Puis Lorelai, ça va être en se mariant avec Luke.
Puis en devenant méchante.
Émilie, elle, par contre, je trouve que c'est celle qui a la plus belle finale.
Ah oui, mais Émilie, ça justifie la saison 8, là.
Ouais.
Ça aurait été le fun que, au pire, il ait fait un épisode, puis genre, de Emily Gilmore, genre Netflix special. Puis ça
je l'aurais écouté, je l'aime tellement, en fait, Emily. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus de complexité dans toute cette série. Même si, bon, j'adore Rory, là, je pense qu'Emily Gilmore, c'est mon personnage préféré.
c'est très intéressant, en fait, la personnification d'Emily, justement, parce qu'il y a une notion de. Tu te fais dire à tout bout de champ que t'es complètement inadéquate par tout plein de personnes, mais il faut que tu restes droite, puis il faut que tu restes Elle a croit à ces valeurs-là. On a beau ne pas, mettons, les croire à ces valeurs-là. Nous, personnellement, en tant que spectatrice et spectateur,
en minorité, bonjour.
On n'a pas laissé parler l'homme de la place.
Pas ma place pour ça.
Puis, même si elle se fait dire souvent qu'elle est inadéquate, qu'elle n'est pas patiente, qu'elle comprend pas, qu'elle comprend rien, il y a une notion de oui, mais je fais vraiment du mieux que je peux avec ce que j'ai. Puis, c'est mes repères. Si tu m'enlèves mes repères, qu'est-ce qui va me rester, tu sais?
Mais aussi, c'est son rêve, elle en parle. Tu sais, elle était à Yale, tu sais, quand même, c'est une femme éduquée, elle était à Yale, mais là, sa seule motivation, c'était pour rencontrer un homme intelligent avec une carrière pour devenir une mère de famille.
J'ai une question qui brûle.
Ben, vas-y, Jean-Michel.
Est-ce que vous pensez que le destin de Rory, c'est de devenir Emily?
Ah, mon Dieu! Ah, j'espère que non!
Ah, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça? C'est exactement ça. Puis en même temps, si je me rappelle bien...
Ah, c'est vrai, elle l'aurait rencontré à Yale, puis là, il serait plein de cash, puis là, elle serait en tombant enceinte de lui.
Ah!
Puis il y a un moment où Richard, il est comme, non, je veux pas que ma petite fille finisse comme quelqu'un qui organise des parties puis des fundraisers toute sa vie.
Oui, en fait, tu sais, Richard, il méprise d'une certaine manière ce travail-là qu'il lui fait.
Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que même si, tu sais... Moi, je trouve que dans le nom de famille, c'est vraiment important parce que c'est pas juste des femmes qui portent son nom de famille, c'est aussi Richard. Puis lui, il ramène tout le temps le fait que elle est une Gilmore, lui, vraiment comme. Puis jamais on parle de la famille, puis le nom de famille de Christopher, là, tout le monde, on s'en calisse de cette famille-là. Puis il y a toujours des complexes. Tu sais, il y a quand même une compétition, mais c'est toujours un peu écarté. Puis Rory est vraiment une Gilmore. Fait qu'elle est. Tu sais, Emily, elle est Lorelai, elle est Richard, toutes combinées ensemble parce que c'est ça, être une Gilmore. Mais là, si elle finit, parce que tu sais, elle navigue tout le temps dans ces trois affaires-là. Elle aime la culture pop, le café,
oui, c'est
un peu bubbly.
C'est le pont entre les deux, là. Ouais.
À la fois, Richard, mais à la fois, elle a quand même cette façon d'être trop, tu sais, d'être trop parfaite puis de bien, comme Emily, là, d'être capable d'avoir une voix douce.
Diplomate.
De toujours dire, jamais avoir revendiqué quelque chose un mot plus haut que l'autre. Donc, si elle finit comme Emily, là, c'est dégueulasse.
Ben, je suis pas en train de dire si
Moi, j'avais jamais pensé, mon cœur veut pas ça, là.
Ben, non, je refuse, pense, moi aussi. Mais autant que j'aime Emily, autant que justement, mais c'est, on revient à la question du cycle. À quel point est-ce que c'est nécessaire dans ton histoire? Est-ce que, tu sais, on dit qu'on réécrit toujours les mêmes histoires, qu'on réécrit toujours le même, qu'on fait toujours le même film, qu'on fait toujours peu importe, mais à quel point c'est nécessaire que, en tant que spectateur, pendant 8 saisons, tu nous as dit la même chose. À un moment donné, ça revient à ce que je disais. Je trouve ça un peu réducteur.
Mais on veut une nouvelle saison qui est enfin un avortement. C'est celui de Rory. Elle tombe en dépression. Elle se ramasse à l'hôpital psychiatrique.
Il y a un attentat terroriste.
Ouais. C'est idiot.
Il y a une vague d'immigration.
Je vais conclure avec deux trucs vraiment étranges.
Vas-y.
Pour mon plaisir à moi. Le personnage de Kirk. Que j'adore pour mourir. Cette idée d'un atome volant est toujours, pour moi, est toujours très agréable. Interprété par l'acteur du nom de Sean Gunn, qui est aussi le frère de James Gunn, le réalisateur de Guardians of the Galaxy. Je fais juste dire ça de même.
Ah, mais il jouait dans Guardians of the Galaxy aussi, Sean Gunn.
Ah oui?
Oui. Il jouait un assistant du gars qui a la petite voyons, là, j'ai oublié son nom, mais le tout bleu, là, avec...
Fait que peut-être que c'est ça.
Ben oui.
Qui s'est retrouvé là. Deuxième tidbit avant de laisser la prochaine émission rentrer. Le nom du maire dans la première saison, est-ce que vous vous rappelez le nom du maire de Stars Hollow?
Il y a un maire dans Stars Hollow?
Oui.
Ben, c'est pas celui qui a l'épicerie,
ouais,
la bombe, la
interprété par David Huddleston. Son nom, c'est Harry Potter, mesdames et messieurs.
Pour vrai?
Oh my God!
Je disais ça de même.
Ça ne s'invente pas.
Je veux vous dire merci.
On l'a jamais vu, Harry Potter, dans le... En tout cas.
Elisabeth, Stéphanie, Maud, merci énormément pour l'émission. Merci aux auditeurs. Si vous voulez vous abonner, on est sur iTunes. Vous pouvez nous mettre des étoiles, nous faire des commentaires, n'importe quoi. On est toujours sur Facebook. On aime beaucoup passer du temps avec vous. Sérieux, du fond du cœur, merci pour la très bonne émission.
Merci à toi.
Je suis très, très, très content. On va aller écouter King Gizzard and the Lizard Wizard.